9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre très bonne santé. Et je suis très heureux de vous retrouver ce matin avec mon invité qui s'appelle Nicolas Barizien. Vous êtes le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de rééducation fonctionnelle à l'hôpital Foch, ça se trouve à Suresnes. Vous êtes concepteur d'un programme qui s'appelle Réhab Covid, un parcours en 8 semaines dont nous allons parler ce matin. Et à noter que votre service effectue des bilans de forme physique pour les patients qui doivent être confrontés soit à une chirurgie pour un cancer, qui peut être suivi parfois par une radiothérapie ou par une chimiothérapie. C'est un concept qui vient du Canada. C'est ce qu'on appelle de la médecine périopératoire.
Voilà, tout à fait. Donc, on est convaincu depuis une bonne vingtaine d'années que l'état de forme dans lequel on se trouve au moment de se faire opérer est important pour bien récupérer après l'opération. Et donc, dans les années 2005-2007, le professeur Carly, qui est anesthésiste à Montréal, a structuré un programme de reconditionnement à l'effort avant la chirurgie et après la chirurgie. Et donc, c'est un programme qu'on a importé en France. Donc, moi, j'ai été avec mon équipe, on était les premiers à faire ça en France dès 2015. Avec un bon succès, puisqu'on a une injonction de notre tutelle, qui est l'ARS, à avoir des délais de séjour les plus courts possibles. Mais pour pouvoir réduire ces délais de séjour, il faut que les gens soient plus en forme quand ils se font opérer.
Et ce programme vous a servi, finalement, pour en élaborer un autre?
Oui, pour
faire une base finalement.
Voilà,
vous avez
pour faire face à cette épidémie silencieuse de Covid long auquel on est confronté depuis mai 2020, avec des patients qui ont des pertes de conditions physiques très importantes. Et au début, j'ai transformé mon outil déjà pour essayer de comprendre de quoi ils souffraient. Et comme on voit qu'ils ont vraiment un déconditionnement qui est multiparamétrique, on va en reparler. Cet outil, il est là pour les accompagner et leur permettre d'essayer de reprendre une meilleure forme assez rapidement.
D'ailleurs, cet outil, on le retrouve dans un livre que vous avez coécrit qui s'appelle « Covid long, comment s'en sortir » aux éditions Marabout. Il y a des tests, il y a des exercices, ça se passe sur 8 semaines et c'est polydisciplinaire, comme on dit aujourd'hui.
Voilà, tout à fait, puisque avec donc Laurent Usan qui est cardiologue et Marie-Pierre Samitier qui est journaliste, on a été un peu choqué par le fait que on n'était pas en mesure, le système de santé, de faire face à la demande de ces patients qui étaient désemparés face à une maladie qu'on ne connaît pas, qui ne connaissaient pas et où personne ne leur donnait de solution. Et très rapidement, on a élaboré un programme pour essayer de les aider. Puis comme on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de les recevoir dans le cadre d'une clinique, d'un hôpital, on a écrit le livre, qui est un livre un petit peu d'auto-diagnostic et d'auto-rééducation pour ne pas perdre de temps et pas avoir la double peine. Un, je suis malade, et deux, je reste en friche.
Voilà, pour ceux qui aiment bien faire des auto-diagnostics, il y a aussi une partie pour vous. Vous êtes spécialiste du traumatisme et de la traumatologie sportive. C'est courant qu'un spécialiste de traumatologie sportive s'intéresse au Covid?
Alors, je suis spécialiste du sport. Et dans le sport, avant de se blesser, il faut être performant. Et pour être performant, il faut comprendre comment fonctionne l'organisme et comment on fait un programme d'entraînement pour se préparer au mieux. Et donc ça, c'est cette partie qui est ce qu'on appelle la physiologie de l'exercice, qui fait partie de mon métier et qui m'a amené à faire les évaluations des capacités fonctionnelles des patients et qui m'a amené à prendre en charge les Covid longs.
Oui, ce qui vous a amené à vous intéresser à la neurophysiologie du Covid. Tout ça pour dire que finalement, le sport, c'est de plus en plus technique d'un point de vue de la santé quand même.
Alors, c'est de plus en plus technique sur la compréhension de comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre. Et c'est toujours aussi simple parce qu'il suffit de se bouger. Il n'y a pas besoin d'être un compétiteur de haut niveau pour se faire du bien à la santé. Il suffit de bouger, et bouger régulièrement, bouger peu intensément. Et ça, c'est aussi le message de fond qu'on essaye de passer depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle le sport santé. C'est comment on peut améliorer son état de forme et sa santé en pratiquant régulièrement une activité physique, si ce n'est un sport.
Alors, de quoi cette appellation Covid long est-elle, on va dire, l'appellation, en gros?
Alors, on a deux définitions. Une définition de l'OMS qui est un petit peu trop large par rapport à ce qu'on a pris en charge en France. L'OMS dit on ne peut avoir fait un Covid long que si on a un test qui montre qu'on a déjà fait le Covid. Et on se rend compte que pendant la première vague, là, au printemps 2020, il y a plein de patients qui n'ont pas pu être testés. Et donc, on ne sait pas s'ils ont fait le Covid, mais ils ont les mêmes symptômes. En France, on est parti du principe qu'à partir du moment où on a des symptômes qui persistent au-delà de 4 semaines après une infection aiguë, et qu'on cette infection aiguë a été contractée dans une période d'épidémie de Covid, on part du principe que c'est un Covid long.
Que vous ayez été testé Covid plus ou pas?
Alors justement,
parce qu'il y a quand même un grand nombre de gens qui ont tous les symptômes du Covid et qui n'ont jamais été testés.
C'est pour ça que, oui. Avec l'aide des associations de patients qui participent activement au groupe de réflexion de la HAS, on est tombé d'accord sur une définition où qu'il y ait ou non la preuve objective d'une contamination initiale à partir du moment où c'est arrivé dans une vague de Covid et qu'il y ait les symptômes, ils sont typiques, à ce moment-là, on parle de Covid.
Alors, que le Covid ait été, on va dire, très symptomatique ou pas, d'ailleurs?
Alors, plutôt modérément symptomatique. C'est-à-dire que, comme dans toutes les maladies, on a trois formes. On a la forme bénigne, c'est celle que vous avez peut-être fait, celle que j'ai eu la chance de faire, c'est-à-dire quelques jours de fièvre, un peu de fatigue, et puis au bout d'une semaine, on n'en parle plus. Il y a les formes modérées, qui sont des formes qui durent 2 semaines de fièvre et plutôt 3 semaines de fatigue avec un petit peu, on sent qu'on a fait une bonne grosse grippe. Alors, c'est un Covid. Et puis après, il y a les formes graves. Et les formes graves qui sont hospitalisées, qui sont hospitalisées en réanimation. Les formes graves hospitalisées en réanimation vont faire des complications de la réanimation. Et c'est les formes modérées qui vont plutôt faire un Covid long.
Oui, les complications, c'est pas des Covid longs, en fait.
Non, le cœur qui est abîmé par le Covid, quand on a les poumons détruits par le Covid, ce sont des complications d'un Covid grave.
Alors, on a du temps ce matin, donc on va bien expliquer aux gens ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter ce matin, qui vont se reconnaître et qui ne savent même pas que le Covid, ce qu'on appelle un Covid long, ça existe. Hein, parce que pour l'instant, ça reste une maladie, un syndrome qui est assez peu expliqué.
Alors, pour l'instant, effectivement, c'est plutôt un syndrome, c'est-à-dire un regroupement de symptômes.
Qu'est-ce que vous appelez un SPAC, vous?
Alors, SPAC, c'est l'acronyme pour symptômes prolongés après Covid-19. Donc, en anglo-saxon, c'est à l'envers, hein, c'est pas grave. Mais en fait, c'est une dénomination commune où, dans les pays qui ne veulent pas parler de Covid long parce que ça a une connotation qui n'est pas assez médicale, au moins on s'entend tous, dans tous les pays du monde, sur le fait que symptômes prolongés après Covid-19, c'est ça le syndrome qui définit cette maladie.
Donc finalement, ces symptômes-là peuvent commencer combien de temps après avoir démarré un Covid? Est-ce que ça veut dire qu'on fait un Covid et on enchaîne le Covid long, et à ce moment-là, ça en continue, hein. On a vu qu'il y en a un qui est resté plus de 400 jours Covid plus, ou alors c'est quelque chose qui redémarre après qu'on ait été guéri?
Eh ben, on peut tout voir. On a des patients qui nous disent: j'ai fait mon Covid aigu, j'ai été très fatigué, ce qu'on appelle le syndrome grippal, et j'ai enchaîné tout de suite avec la persistance des symptômes, et c'est mon Covid long. Et certains patients vont vous dire: j'ai été fatigué pendant 2 semaines, 2-3 semaines, ça allait mieux, et puis un mois plus tard, j'ai refait une petite infection ORL, un petit rhume, et hop, c'est parti. On a même certains patients qui vont avoir déclenché leur Covid long après avoir fait un Covid et après la première vaccination. Donc, on a vraiment besoin de ce temps d'enquête avec les patients pour bien comprendre comment s'est passée l'apparition de leur Covid long, mais on peut tout voir.
Est-ce que quelqu'un qui fait un Covid long, c'est quelqu'un qui est positif s'il fait un PCR aujourd'hui, est-ce qu'il va revenir positif au niveau du test?
Ah non, ça serait trop simple. Bien sûr, il n'a plus de virus actif dans sa sphère ORL. Donc, ni dans ses trous de nez, là on va chercher avec le petit coton pour faire les tests antigéniques, ni si on faisait un prélèvement dans sa gorge, on ne trouve plus de virus vivant.
Mais est-ce qu'il a encore du virus quelque part?
C'est une des grandes questions, c'est-à-dire que dans les 3 hypothèses qui pourrait permettre d'expliquer la persistance de ces symptômes. Il y en a 3 grandes. La première, c'est ce qu'on appelle la persistance virale. Est-ce qu'il reste du virus caché dans un coin, comme par exemple la varicelle Elzona, c'est-à-dire qu'on fait tous la varicelle.
Il y aurait un réservoir quelque part.
De temps en temps, il relâche du virus et il provoque la réactivation des symptômes. Ou est-ce que ce sont simplement des fragments de ce virus qui réactivent le système immunitaire? L'autre solution, l'autre explication potentielle, c'est que le virus a provoqué une inflammation chronique et plutôt de type auto-immun. On fabrique des auto-anticorps contre soi-même. Et à ce moment-là, bah, on est dans une maladie qui est une maladie de type auto-immune, polyarthrite rhumatoïde, lupus. Voilà. Et puis la troisième, c'est est-ce que cette inflammation, elle a provoqué une lésion sur certains organes, alors certaines zones du cerveau, les vaisseaux avec des microthrombus. Donc tout ça, c'est ces trois grandes pistes qui sont en ce moment explorées en recherche fondamentale, mais pour laquelle on n'a que des embryons d'explication pour l'instant.
Et d'ailleurs, pour l'instant, on a des embryons d'explication pour ce Covid long, hein, même de 2 ans après l'apparition de la maladie.
Tout à fait. Tout à fait.
En quoi est-ce que c'est une maladie qui est complexe à diagnostiquer, donc, ce Covid long?
Alors, parce que justement, on n'a aucun test qui nous permette de dire de manière objective, vous êtes positif, on vous fait un test, on vous fait une prise de sang, on vous fait un examen, un scanner, une radio, c'est oui, c'est non. L'ensemble de l'expression des symptômes est uniquement subjective, c'est-à-dire, vous dites que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que je suis fatigué? C'est compliqué de dire comment on est fatigué.
Je peux dire que je connais des gens là autour de moi, ça vaut ce que ça vaut comme preuve d'échantillon, mais qui depuis le Covid font des épisodes de fatigue inexpliqués et de vraie fatigue. Hein. Et c'est des gens qui sont pas du tout fatigués dans la vie. Hein.
Tout à fait. Bah voilà, par exemple, typiquement, ça c'est quelque chose, c'est un petit point d'alerte qui va nous faire dire, tiens, est-ce qu'il faut pas aller creuser un petit peu et faire le questionnaire d'ensemble pour voir si c'est pas un Covid long.
Il y a un questionnaire, le questionnaire est dans votre livre. Hein,
alors il y en a un, voilà, on est en train de les améliorer.
Il y a une partie
des
questionnaires.
Une partie du questionnaire. Donc voilà, ce sont que des symptômes qui sont ce qu'on appelle subjectifs, c'est-à-dire c'est du ressenti. Et donc on est dans un monde où on aime bien les preuves. Et là aujourd'hui pour cette maladie-là, on n'a pas de preuves objectives. Et ce qui a fait
dire aujourd'hui personne. Enfin, parmi ceux qui viennent suivre le parcours à l'hôpital, à aucun moment vous pouvez affirmer de quelqu'un qu'il a un Covid long.
Alors, je l'affirme par deux choses. La première des choses, je vois qu'il n'a rien d'autre. C'est-à-dire que dans les symptômes qu'il exprime, ça peut être la manifestation d'une maladie grave, une embolie pulmonaire, une péricardite, plein de maladies qu'on va éliminer. Parce que celle-là, on est capable d'avoir des éléments qui nous disent c'est oui, c'est non. Donc à partir du moment où on a éliminé toutes ces maladies qu'on connaît, on dit c'est autre chose. Et dans cette autre chose, bah, il faut typer le type de plainte et on le fait avec les questionnaires et avec l'examen clinique. Et à ce moment-là, quand on n'a pas d'autres explications, et bah, à ce moment-là, on est parti sur le fait que ça soit un Covid long, dont maintenant on a quand même une description clinique qui est avec un consensus international.
D'accord, on va en parler justement de ces symptômes, mais aujourd'hui, il n'y a pas une prise de sang qui permettrait aujourd'hui de valider avec des recherches d'anticorps que finalement,
non, malheureusement.
C'est d'un Covid long dont on parle.
Non, c'est, malheureusement, et c'est ce qui fait que des fois, les gens sont un peu pris pas au sérieux.
Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Covid long, comment s'en sortir? C'est le titre du livre Nicolas Barizien que vous avez coécrit aux éditions Marabout. Le Covid long jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle du Covid long, vous en avez peut-être entendu parler avec mon invité, le docteur Nicolas Barizien, co-auteur de Covid long. Comment s'en sortir? On a un peu plus de recul par rapport à la sortie de votre livre, hein, qui est sorti déjà il y a un an. Vous avez avancé, vous, dans la compréhension du Covid long en cette année?
Alors, dans la compréhension du Covid long, on a avancé d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire sur les trois pistes qu'on a évoquées, la persistance virale, la réaction auto-immune et l'inflammation chronique. Certaines études américaines très très poussées, parce que malheureusement il faut faire des études très très poussées, commencent à nous donner des pistes d'explication. La dernière parue au mois de septembre nous montre bien que ces patients ont un problème de sécrétion d'hormones d'adaptation au stress, le cortisol, et que ça explique en grande partie leur fatigue. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont ce cortisol qui est bas, mais au moins on a une explication de leur grande fatigue. Et puis deuxièmement, on commence à avoir des petites informations sur le fait qu'il se passe quelque chose de bizarre avec l'immunité, c'est-à-dire certaines personnes, et on ne sait pas pourquoi, face à ce virus, vont faire, comme vous et moi, une réaction normale. Certains vont ne pas arriver à faire de réaction et vont faire des formes graves, et d'autres vont faire des surréactions qui vont les mettre dans des états assez complexes.
Vous avanciez dans le livre une hypothèse, c'est ce qu'on appelle la dysautonomie, et qui introduisait la notion du système nerveux.
Alors, ça, elle est confirmée.
Alors expliquez-nous, parce qu'en fait finalement c'est dans le cerveau que ça se passe.
Alors c'est dans tout l'organisme, mais le centre de pilotage est dans le cerveau. Hein. La dysautonomie, c'est un mauvais équilibre entre le yin et le yang. On va dire simplement, hein, vous savez, dans la philosophie asiatique, on a un système qui est un système qui nous accélère, qui est énergisant, et un système qui nous apaise et qui nous détend. Et normalement, à chaque fois qu'on fait une activité, par exemple, vous êtes en train de monter les escaliers, eh ben, il faut produire plus d'énergie, votre muscle va s'activer, mais le cœur va envoyer plus de sang, et donc on va avoir le système activateur qui va se mettre en branle. Puis quand vous êtes arrivé sur les pas de
sur la porte,
voilà, et ben votre système de récupération va dire ok, on a fini, je vais ralentir le système. Et en fait on constate chez les patients Covid long que cette régulation fine permanente de ces deux systèmes, hein, qui s'appelle le sympathique et le parasympathique, ne fonctionne plus de manière adaptée,
de manière automatique,
ni adaptée ni automatique.
Par exemple, dans les phases
il y a des gens qui vont être assis au repos tranquillement et qui vont avoir le cœur qui bat à 120, alors qu'on bat normalement entre 60 et 80 pulsations.
Donc il y a un emballement, subitement.
Subitement, sans raison. Et inversement, quand il va falloir qu'il court après le bus, ou qu'il monte les escaliers, le cœur ne va pas accélérer. Et donc ils sont essoufflés au moindre effort, mais parce que la machine ne suit pas. Et donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien dans le monde du sport. C'est aussi pour ça que je me suis intéressé.
Que vous êtes intéressé au sujet. C'est pour ça que je vous lance là-dessus, parce que c'est intéressant. Et, et puis parce que c'est vrai que c'est une approche que tout le monde n'a pas. Notamment sur les automatismes qu'on a, puisque la plupart des fonctions corporelles qu'on a, elles sont toutes automatiques, comme respirer.
Voilà, respirer, vous n'êtes pas en train de penser à respirer. Vous avez une partie dans le cerveau qui s'occupe de ça. C'est pas dans votre cerveau conscient. C'est ce qu'on appelle neurovégétatif. Et donc, ce système-là est détraqué chez les Covid longs. Et donc, toute la mécanique subtile de l'adaptation de la respiration pendant que je suis en train de parler, par exemple, est désadaptée. Donc, les patients vont être essoufflés quand ils font une phrase de plus de 10 mots. Et donc, ça se fait au niveau du cœur. On en a parlé, la régulation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle. Ça se fait au niveau de la respiration. Est-ce que je respire plutôt avec le haut de mes poumons, la cage thoracique, ou est-ce que je respire plutôt avec le bas de mes poumons, le diaphragme, la digestion? C'est-à-dire que la digestion, c'est pareil. Quand vous avez pas mangé, votre estomac, il est vide.
Il sert à rien.
Et il est au repos. Et là, il continue à être actif. Et donc, les gens ont des alternances de diarrhée et de constipation complètement déconnectées de leur alimentation. Et on a la même chose au niveau neurocognitif et même au niveau sexuel. C'est-à-dire qu'on a énormément de troubles d'érection.
C'est pas dans votre livre, ça.
Alors, j'en parle un tout petit peu.
Ça m'a échappé, ce passage-là. Il est microscopique, c'est le cas de le dire.
En l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une désynchronisation entre le désir, l'érection et l'éjaculation qui fait que la vie devient compliquée. Alors, je parle pour les hommes, mais pour les femmes, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une partie dont on parle pas beaucoup parce que les gens sont tellement gênés par tout le reste que ça vient souvent en dernier.
Et ils pensent pas forcément, de toute façon, au Covid par rapport à ça.
Ouais.
C'est une zone sur laquelle aussi interviennent deux maladies, hein, la maladie d'Alzheimer et de Parkinson aussi. Est-ce qu'on n'en parle pas pour pas inquiéter les gens?
Alors non, parce que pour l'instant, les examens qu'on fait pour faire le diagnostic de la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer sont négatifs, sont normaux chez les Covid longs. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les images cérébrales de lésions parkinsoniennes chez les Covid longs. Donc le parallèle, on n'en parle pas parce qu'il ne paraît pas être approprié.
Est-ce que le nombre de Covid longs est corrélé à au virus de départ? C'est-à-dire que par exemple, il y avait celui de la première vague et puis des autres vagues. Donc est-ce que à partir du moment où on a changé de virus, il y a plus ou moins de Covid? Donc je sais pas si ma question est claire.
Oui, elle est très claire et la réponse, je peux pas vous la donner parce qu'on a une grande chance en Europe, c'est qu'on a été vacciné. Et on a énormément de Covid long sur les premières vagues tant qu'on n'était pas vacciné. On en a moins sur les secondes, mais faire la différence, est-ce que c'est parce que le virus a changé ou c'est parce que globalement la population était vaccinée et que les réactions d'immunité bizarres qui développent le Covid long ont été neutralisées par la vaccination, ça on n'est absolument pas capable de le dire. Donc oui, je peux pas vous répondre de manière scientifique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que en moyenne, dans toutes les publications, le taux de Covid long par rapport aux gens qui font un Covid aigu, c'est de 15 à 30%. Là, les résultats de l'OMS sont sortis là au mois de septembre, c'est 16% en moyenne. Ce qui fait que
attends, ça fait 16%.
Ouais, Ouais, ouais. Et ça, ça, c'est les chiffres qui sont sortis. Donc, antenne européenne de l'OMS.
C'est important.
Ah ben, ça fait 2 millions de personnes en France qui sont touchées de Covid long. 2 millions en Grande-Bretagne. Il y a on estime entre 9,5 et 10 millions aux États-Unis. Et les estimations, parce que c'est des projections quand même, on est entre 15 et 17 millions de personnes en Europe.
Alors, il y a une énorme variété de symptômes, hein, j'en ai vu plus de 200. En gros, les gens qui viennent vous voir en consultation, de quoi se plaignent-ils majoritairement ?
Alors, en médecine, on essaie de classifier un petit peu par ordre de fréquence les signes. Là, le maître symptôme du Covid long, c'est la fatigue. Tous les patients sont fatigués. Et ensuite, ils peuvent avoir des manifestations qui sont plutôt d'ordre cardiologique, c'est-à-dire des palpitations, de la tachycardie, la tension artérielle qui fait n'importe quoi. Ils peuvent avoir des manifestations plutôt respiratoires, c'est-à-dire essoufflement au moindre effort, des douleurs thoraciques qui peuvent faire même des fois penser à des infarctus, qui sont liés plutôt à des contractures des muscles respiratoires. On a tout un cortège de signes qui vont être plutôt digestifs, c'est-à-dire brûlure d'estomac, des douleurs abdominales,
la colopathie,
des remontées gastriques, mais aussi ça peut être par le bas, de la diarrhée, de la constipation. Et puis on va avoir aussi d'autres symptômes qui sont effectivement plutôt neurocognitifs, qui sont des troubles de l'attention, des troubles de ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est-à-dire le calcul mental, c'est plus possible. Poser une retenue sur une étagère et aller la rechercher quand on a fait le calcul, il n'y a plus personne sur l'étagère. Donc le calcul mental, c'est au quotidien. Hein, vous faites vos courses, on fait du calcul mental. Ça, ils sont gênés pour ça. Mais vous imaginez, quand vous êtes en train de travailler derrière un ordinateur, il y a une partie de votre cerveau qui travaille en mettant des informations dans un endroit, qui va les rechercher plus tard. Et ça, ils sont incapables de faire ça. Ou alors, ils disent, je suis capable d'être à 90% de ma capacité intellectuelle, mais 10 minutes. Après, il faut que je me repose. Donc, ces troubles neurocognitifs, ils sont évalués, il faut les faire évaluer. Alors, c'est soit les neuropsychologues qui font ça, malheureusement, elles travaillent quasiment que en milieu hospitalier, ou alors les orthophonistes qui ont fait une spécialité de rééducation du langage, par exemple pour les AVC, hein, c'est un peu la même évaluation de l'intelligence au sens un petit peu large, qui font ce bilan-là pour savoir si c'est un trouble de concentration, si c'est un trouble de l'attention, ou si c'est un trouble de la mémoire. Et ça se rééduque.
Donc là, encore une fois, on est face à un trouble qui est nouveau, quoi, qui est apparu juste après le Covid.
Oui, voilà, c'est des troubles qu'on connaît dans d'autres maladies et qu'on sait prendre en charge, mais pour l'instant dans une maladie qu'on ne sait pas guérir, parce qu'on n'a pas encore trouvé le médicament pour guérir du Covid long.
Est-ce que les enfants sont concernés par ce Covid long dont on est en train de parler ou pas du tout ?
Alors, il y a deux populations dont on a sous-estimé l'importance. Ce sont effectivement les adolescents et les personnes âgées. Alors, quand vous avez un adolescent qui est fatigué, allongé sur le canapé et qui zappe devant la télé, est-ce qu'il est plus fatigué que d'habitude ou est-ce que c'est un adolescent normal ? C'est une question. Et le problème, c'est que du coup, ça nous a fait prendre du retard sur le diagnostic de ces adolescents entre 12 et 18 ans qui ont quand même des formes de Covid long et les pédiatres s'en occupent pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension du mécanisme qui fait qu'ils sont touchés. Le cerveau de l'adolescent ne fonctionne pas comme le nôtre. Déjà, le fait de le savoir, c'est une grande information à partager avec tout le monde. Mais comment on les évalue par rapport à un adulte, c'est plus compliqué. Et puis les personnes très âgées, bah, il est moins en forme, il est fatigué, il a plus de 80 ans, il a un peu du mal à se concentrer. On est aussi passé, je pense, un petit peu au travers, un peu trop rapidement, sur les Covid longs de ces deux populations-là, adolescents et personnes âgées.
Alors, ce que vous décrivez, hein, ce sont des symptômes que moi j'entends, encore une fois, de gens autour de moi. Est-ce qu'on a envisagé l'aspect psychosomatique ?
Alors, il est toujours envisagé à tous les moments de cette maladie. En sortie de confinement, vous avez travaillé chez vous, quand vous n'étiez pas professionnel de santé ou autre, dans des conditions pas forcément faciles, avec des fois les enfants à la maison, et un contexte très très anxiogène, puisque souvenez-vous, tous les jours, on avait le bulletin météo du nombre de décédés, le nombre de patients hospitalisés en réanimation. On n'a pas tous le même bagage pour faire face à ce type de stress. Et certaines personnes un peu fragiles ont fait une décompensation, comme un espèce de Covid burn-out. Donc, mais ces gens-là ne sont pas des Covid longs. Ces gens-là ont fait une aggravation d'un état un petit peu anxio-dépressif préalable. Mais ce n'est pas des Covid longs. Deuxièmement, quand vous êtes invalidé par un Covid long pendant 6 mois, pendant 1 an, vous ne pouvez pas faire face à la maison, vous ne pouvez pas faire face au boulot, il y a de quoi être et anxieux et potentiellement dépressif. Donc les troubles psychosomatiques, ils font partie de cette maladie. Mais pour moi, ils ne sont pas premiers.
On parle du Covid long ce matin, sujet encore émergent, avec le docteur Nicolas Barizien. Je rappelle que vous publiez Covid long, comment s'en sortir, aux éditions Marabout. On parlera de votre programme en 8 semaines dans un instant.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, notre invité ce matin est le docteur Nicolas Barizien. Je rappelle que vous êtes chef du service de rééducation fonctionnelle à l'hôpital Foch, ça se trouve à Suresnes, et que vous avez conçu un programme qui s'appelle Réhab Covid, et comme son nom l'indique, ça vous permet de vous relever du Covid si vous faites ce qu'on appelle un Covid long, ce dont on est en train de parler ce matin. Est-ce qu'on a réussi déjà à établir des profils, types de personnes qui ont développé un Covid long?
Alors, oui, on avance, mais globalement, autant pendant les premières vagues, les patients qui terminaient à l'hôpital et terminaient en réanimation étaient des patients plutôt des hommes, plutôt relativement âgés, plus de 70 ans, avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies préexistantes, un surpoids important, voire une obésité, et des maladies cardiovasculaires. Mmh. Et là, on est dans une population qui n'a rien à voir, on est sur de l'adulte, assez jeune, on est entre 20 et 65 ans, actif et sans comorbidité particulière. La seule chose qu'on a l'impression de voir, c'est un terrain, ce qu'on appelle atopique, c'est un terrain allergique qui s'est manifesté soit par un rhume des foins, soit par de l'asthme pendant l'adolescence. On a l'impression que c'est un facteur qui est favorisant. Et donc, il y a une vraie problématique, c'est des patients qui sont actifs, soit ils sont étudiants, soit ils travaillent, et tout d'un coup, ils sont impactés par cette maladie qui les empêche de vivre normalement, voire de ne pas pouvoir aller travailler.
Ce que vous expliquez très bien dans votre livre, hein, parce qu'il y a des situations avec justement des portraits de personnes qui sont venues vous voir en consultation. C'est une sensation de fatigue qui est inhabituelle, avec pour l'impression pour les malades de ne pas guérir finalement et de traîner ça.
Voilà, tout à fait. On a tous été fatigués, soit parce qu'on avait fait du sport, soit parce qu'on avait veillé tard le soir, voire on s'était couché très tôt le matin. C'est des fatigues qui durent 24-48 heures. Et là, cet état de fatigue, un peu d'épuisement, devient permanent et surtout devient fluctuant. C'est-à-dire, il y a un niveau de base ou de fatigue. Et puis, autour de ça, en fonction de la météo, de la fatigue, du stress que vont subir les patients, et puis des fois, il n'y a pas d'explication, la fatigue va devenir beaucoup plus importante. Et on est parti pour une vague qui dure de quelques jours à quelques semaines, qui va se restomper tout doucement, mais on ne revient jamais à un niveau de fatigue zéro. Les gens ont toujours un niveau de fatigue supérieur à ce qu'ils avaient avant d'être contaminés.
Par parenthèse, la fatigue, c'est quand même quelque chose de très compliqué à évaluer.
Bah, tout à fait, et ça c'est un des gros problèmes qu'on a avec les patients. On essaye d'utiliser des échelles pour que les patients s'auto-évaluent sur quel est leur ressenti de fatigue. Mais vous voyez, vous allez courir 2 heures le week-end, vous rentrez, vous êtes fatigué, c'est normal. Vous avez fait une nuit blanche parce que vous avez fait la fête, vous êtes fatigué, mais on vous envie. Donc c'est compliqué d'évaluer la fatigue et surtout de voir comment elle va évoluer dans le temps.
Alors comment ça se passe? Quelqu'un qui vient vous voir, qui arrive à arriver au parcours, déjà qui c'est qui vous l'adresse? Parce que est-ce que les médecins généralistes sont formés et sont renseignés sur le Covid long?
Alors maintenant oui, à la fois on a fait de l'information moi je fais partie du groupe des experts de la HAS qui a...
La HAS, parce qu'on l'a cité plusieurs fois, on n'a pas discuté.
C'est la haute autorité de santé et qui a rédigé un manuel, un mode d'emploi de comment diagnostiquer un Covid long et comment le prendre en charge, et qui est diffusé aux professionnels de santé, mais qui est accessible, sur Internet, sur le site de l'HAS.
Donc quelqu'un qui vient vous voir, vous commencez par quoi? Vous lui faites un scanner,
Alors déjà, on va avoir trier un petit peu le dossier de ce patient. Il nous est souvent adressé par les médecins généralistes qui ont éliminé les maladies graves. Hein, comme on a parlé, il peut y avoir une embolie pulmonaire, il peut y avoir des maladies cardiaques. Et donc ça se fait avec un scanner thoracique, avec une échographie cardiaque. Une fois qu'on a éliminé ces maladies, parce que ces maladies, là, on sait les soigner et on en guérit très bien, les médecins nous envoient un dossier sur lequel il y a un certain nombre d'examens donc que j'ai besoin de voir pour m'assurer qu'il n'y a pas ces maladies, pour pouvoir convoquer le patient. Ensuite, on va le prendre en charge sur ce qu'on appelle un hôpital de jour d'une demi-journée, où il va rencontrer 4 professionnels de santé. Il va rencontrer une diététicienne, parce qu'il y a des patients qui vont avoir perdu 5 à 10% de leur poids de corps pendant la période où ils ont été infectés avec la fièvre. Et quand vous perdez 10% de votre masse musculaire, et ben vous êtes fatigué parce que vous manquez de moteur. Ils vont rencontrer une psychologue parce qu'on a besoin de savoir quel est l'impact de ces symptômes neuropsychologiques.
C'est-à-dire que quand on a une maladie qui ne guérit pas, ben finalement, ça finit par avoir un impact. Hein.
Complètement. Et quel est l'impact? Est-ce que c'est un impact familial? Est-ce que c'est un impact professionnel? Est-ce qu'il y a des ressources individuelles et dans la famille pour faire face à ça ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'aide?
Ouais, surtout qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé, mais c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas crus.
Voilà, tout à fait. Ils vont rencontrer un kinésithérapeute qui va faire ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Est-ce qu'ils ont de la force dans les jambes? Est-ce qu'ils ont de la force dans les bras? Est-ce qu'ils sont capables de marcher? Donc c'est un test de marche de 6 minutes. On est capable de mesurer quelle est la distance qu'ils font. Et en fonction de leur âge, on sait s'ils sont dans une valeur normale ou pas. Et ensuite, moi, je les reçois et je leur fais faire ce qu'on appelle une épreuve d'effort. C'est-à-dire, je les fais pédaler avec des électrodes branchées sur la poitrine et un masque sur le visage pour analyser et comment fonctionne le cœur et comment fonctionne le poumon pendant l'effort. Et donc, à la fin de ça, on peut dire, bah voilà, vous êtes plutôt comme ceci, vous êtes plutôt comme cela, et la solution pour vous, ça va être plutôt une rééducation de type respiratoire quand les problèmes sont dus à ce qu'on appelle une hyperventilation, plutôt un reconditionnement à l'effort quand c'est le cœur qui fait n'importe quoi, hein, et voilà, ça permet de mieux profiler les patients et de leur faire un programme individualisé.
C'est-à-dire que c'est une méthode De rééducation.
Hein,
sur tous les plans, mais c'est du prêt-à-porter. C'est pas du.
Voilà, tout à fait,
parce que. C'est du sur-mesure, pardon.
C'est pas
du prêt-à-porter.
C'est du sur-mesure parce que, malheureusement, tout le monde va avoir des symptômes un peu différents et quelqu'un qui, par exemple, on a eu des gens qui étaient des grands sportifs, le niveau de normalité pour un grand sportif ou que pour quelqu'un qui est sédentaire, c'est pas du tout la même chose. Et donc, le sportif qui a un Covid long, lui, il a envie de revenir à son état d'avant, mais son état d'avant, il est bien supérieur à ce à quoi accédera jamais un sédentaire, même s'il s'entraîne. Donc, le niveau d'exigence est différent, donc la prise en charge est différente.
Est-ce que ça veut dire que après cette rééducation, on revient à la forme qu'on avait avant?
Alors, c'est pour ça qu'on les revoit, les patients, et qu'on on les réévalue pour voir quelle est la vitesse de récupération. Alors, la vitesse de récupération, elle est lente. Beaucoup de patients de la première vague ont heureusement, Covid long de la première vague, ont heureusement tourné la page. Mais il en reste encore qui, 2 ans après, ont une qualité de vie qui est dégradée et malheureusement, pour un petit nombre d'entre eux, pas suffisamment améliorée pour pouvoir reprendre une vie normale, c'est-à-dire s'occuper des enfants à la maison et retourner au travail avec un niveau d'efficience acceptable.
Vous avez une partie de rééducation pour l'odorat et le goût. Quel est de ces deux sens celui qu'on perd le plus dans le Covid?
Alors, c'est l'odorat. Hein, typiquement, les premières vagues, ça a été vraiment le point d'appel initial, c'est-à-dire tous les patients qui consultaient avaient une perte d'odorat. C'est moins vrai avec Omicron, et c'est moins vrai avec les variants qui vont arriver. Alors encore une fois, est-ce que c'est lié au virus ou est-ce que c'est lié à notre protection vaccinale? Je ne saurais pas le dire, mais c'est un peu moins présent. Donc en fait, on pense que le virus s'est installé dans la muqueuse des fosses nasales, qu'il a fait éclater les cellules, il les a détruites, donc il n'y a plus de signal qui arrive. Ça se reconstruit, parce que ça se reconstruit quasiment toujours, sauf que la transmission entre le signal des capteurs dans le nez d'une flagrance d'un parfum et sa signification dans le cerveau est déconnectée. C'est-à-dire que le signal arrive au cerveau, mais il ne sait plus quoi en faire. Donc il y a la perte d'odorat, c'est-à-dire je ne sens plus, et quand ça se prolonge, c'est plus que c'est un problème de la muqueuse, c'est un problème du câblage de la muqueuse jusque à l'ordinateur qui est le cerveau qui interprète tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire une rééducation mixte à la fois sur l'odorat, sur la vue et sur le goût, Parce que sinon, le cerveau n'arrive pas à réassocier un signal électrique qui transforme dans la muqueuse, qui correspond à un parfum, à une orange, une banane, de la vanille.
Ça correspond à combien de quel est le pourcentage de ceux qui finalement après une phase de Covid ne retrouvent pas le goût et l'odorat? C'est fréquent ou pas?
Alors c'est fréquent et c'est sous-estimé. C'est sous-estimé parce que ça peut être un trouble pas très handicapant. Dans mon métier, moi, si je perds l'odorat, ça va pas beaucoup me gêner. Si vous êtes cuisinier, si vous êtes même boulanger, si vous faites un métier de bouche, perdre l'odorat, ça va être très très invalidant. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont un odorat qui est altéré ou qu'ils ont perdu. Ils s'y sont habitués, s'ils font un métier, ils ont un environnement de vie qui leur nécessite pas d'avoir un odorat performant, finalement ils vivent avec.
Ils y font plus attention.
Ah ouais. Et en fait, on sous-estime, je pense, aussi grandement le nombre de gens qui ont un odorat déficient par rapport à ce qu'il était avant leur Covid, parce que les gens s'y habituent et que c'est moins embêtant que de perdre la vue ou que de plus être capable de se concentrer.
Alors, il y a aussi ceux qui se retrouvent avec une odeur désagréable dans le nez ou dans la bouche. Alors, on parle beaucoup de goût d'essence, enfin, en tout cas. Est-ce que ça se rétablit aussi, ça se rééduque?
Alors, ça se rééduque. Alors, c'est ce qu'on appelle...
c'est un nom barbare.
La cacosmie. La cacosmie. Voilà. Donc, ça sent pas bon. On comprend bien, c'est écrit dans le nom. Alors, effectivement, les odeurs de café brûlé, de gasoil, de kérosène, c'est des noms qui reviennent régulièrement dans la bouche des patients. On pense que c'est vraiment ce signal qui n'est plus interprété, et il est interprété comme un signal d'alerte. Donc, c'est mauvais, attention. Et donc ça se rééduque. Donc ça commence déjà simplement par se nettoyer les fosses nasales avec du sérum physiologique.
Alors ce que vous expliquez, c'est qu'au départ, on déconseillait de le faire. Et qu'au final, on a dit qu'on pouvait le faire.
On a été face à la découverte d'une nouvelle maladie. Et on a eu des attitudes de prudence au début. Et puis finalement, on s'est rendu compte que on pouvait le faire. Il faut au contraire se laver les fosses nasales pour nettoyer les petits déchets qui peuvent perturber le capteur sensoriel. Quand c'est vraiment en début de rééducation, on conseille à les ORL, conseille de faire un petit traitement de cortisone en pulvérisation nasale pour calmer l'inflammation. Et puis ensuite, il faut faire cette rééducation qui est mixte, où on fait participer tous les sens possibles. C'est-à-dire, on prend une orange dans la main, on la touche, on la regarde, elle a une couleur, elle a une texture, elle a une odeur, elle a un goût. Et on essaye de faire retravailler le cerveau dans toute cette complexité de la mémoire globale.
Pour parler d'un exemple qui m'est proche, j'ai rééduqué Tarek avec du parfum au Philosikos. Et à partir du moment où il s'est remis à sentir son parfum, c'était gagné.
Mais c'est
Madeleine de Proust, c'est ce que vous expliquez. Ce sont des odeurs qu'on connaît depuis longtemps.
Il faut qu'on arrive à refaire associer au cerveau un signal électrique, parce qu'en fait l'odeur, elle arrive dans le nez, elle est transformée en signal électrique et toute la mémoire du cerveau d'un parfum. Effectivement, les petites madeleines de Proust, c'est un peu ça, les parfums d'enfance, les choses qu'on aime bien, c'est avec ça qu'il faut travailler.
Bon, on récupère d'un Covid long?
Alors oui, on récupère d'un Covid long. Il faut être patient et tenace, et en même temps savoir s'écouter. C'est-à-dire que tous les patients nous disent qu'il y a des jours, c'est pas la peine de faire de la rééducation. Si je me force, je vais arriver à me forcer, mais derrière, je vais le payer. Et ça, c'est le plus compliqué, et pour les soignants et pour les patients, d'apprendre à suffisamment bien se connaître et savoir quand on peut forcer parce qu'on est en forme et qu'on va pouvoir progresser, et les jours où c'est pas la peine de forcer parce que de toute façon, le lendemain, je vais être cloué sur mon canapé, je vais plus pouvoir rien faire.
Bon, votre méthode en 8 semaines est à base d'exercice, il n'y a pas de médicaments. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment du boulot qu'on fait soi-même avec des exercices qui sont plus ou moins doux, des étirements, du cardio.
En même temps de la sophrologie un petit peu, parce que on sait qu'on arrive à resynchroniser ce yin et ce yang en faisant ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle de la respiration contrôlée, de la ventilation contrôlée. Par exemple, les chanteurs nous ont dit que ça les avait énormément aidés de se remettre à chanter et de refaire les exercices de base pour contrôler cette respiration et lutter contre l'essoufflement au moindre effort. Donc ça, c'est des choses simples à faire. Mais bien entendu, si vous avez de la diarrhée, on va traiter votre diarrhée. Si vous avez des douleurs, on va traiter vos douleur. Ça n'empêche pas, ça ne remplace pas. Mais aujourd'hui, c'est en prenant en charge l'ensemble de ces rééducations intellectuelles, entre guillemets, neurocognitives, la rééducation olfactive, la rééducation respiratoire et le reconditionnement à l'effort, qu'on arrive à aider le mieux les patients Covid long.
Bon, alors on trouve tout ça dans votre livre, hein, ça s'appelle Covid long, comment s'en sortir, aux éditions Marabout. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Mettez en commentaire, hein, si vous avez été diagnostiqué Covid long ou si vous avez peut-être vous, en écoutant l'émission, compris que vous souffriez d'un Covid long, on vous répondra. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Nicolas Barizien.
Merci beaucoup.
Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.